Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'impact de la chute des cours du pétrole en Afrique avec en toile de fond la situation au Tchad où l'or noir représente tout de même 70% des recettes budgétaires. Seulement voilà, depuis 3 ans, le prix du baril s'est effondré, passant de 100 à moins de 50 dollars. Le pays est donc aujourd'hui en récession et du coup, pour essayer de compenser le manque à gagner, eh bien le président Idriss Déby appelle désormais les opérateurs économiques à oublier le pétrole et à investir dans le monde rural, autrement dit dans l'agriculture et l'élevage. Alors est-ce une bonne alternative à la dépendance pétrolière? Quel secteur faut-il aujourd'hui privilégier pour diversifier les économies nationales? Vous êtes au Tchad, au Gabon, au Congo, au Cameroun, votre pays est producteur de pétrole. Appelez-nous, vos réactions évidemment nous intéressent et vos témoignages également. Parlez-nous de l'impact de la chute des cours dans votre vie quotidienne. 33 9 693 693 93 70. Mais d'abord, comme tous les matins, à 7h06, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions sur l'actualité pour mieux comprendre tous les sujets que nous décortiquons tout au long de la journée dans nos différentes éditions. Fred, bonjour. Allô Fred.
Allô, bonjour Juan.
On a appuyé sur le bon bouton, on vous entend. Bienvenue sur l'antenne d'RFI. Vous êtes à Brazzaville et vous avez des questions sur la pollution à New Delhi.
Et une pollution record asphyxie New Delhi en Inde. Quelles sont les causes de cette pollution extrêmement nocive et quels sont les risques sanitaires pour les populations indiennes?
Oui, effectivement, c'est vrai que depuis maintenant une semaine, les habitants de la capitale indienne vivent sous un épais nuage de pollution. Bonjour Antoine Guinard.
Bonjour.
Vous êtes l'un des correspondants de RFI à New Delhi. Un nuage grisâtre. Les images sont vraiment impressionnantes. Cette mégapole de 20 millions d'habitants est recouverte donc par cette brume grise. Quelles sont les causes de cette pollution?
Alors c'est une combinaison de facteurs. New Delhi est tout d'abord bordée par plusieurs régions agricoles. Donc la première cause est donc les brûlis agricoles. À cette époque de l'année, les agriculteurs brûlent le chaume dans leurs champs et ceci pollue fortement l'atmosphère. C'est une des causes majeures. On estime qu'il y a 35 millions de tonnes de récoltes qui sont brûlées dans les trois États qui bordent Delhi. Alors, il y a également les véhicules qui sont responsables de la pollution dans cette ville de 20 millions d'habitants qui devient maintenant surpeuplée, donc plus de 20 millions d'habitants. Alors à cela s'ajoute aussi la pollution industrielle dans plusieurs zones, dans plusieurs grandes usines, grandes centrales en bordure de Delhi. Et aussi les nombreux chantiers, Delhi est une ville en construction en permanence, donc ces chantiers répandent la poussière dans l'atmosphère tout au long de l'année. Alors ce qui fait que c'est à cette période de l'année, qu'il y a une pollution aussi nocive, c'est que les vents sont assez faibles et la chute des températures font que toute cette pollution stagne dans l'air et donc asphyxie la ville comme l'a dit Fred.
Oui.
C'est pourquoi ce phénomène survient surtout en hiver.
C'était le cas d'ailleurs déjà l'année dernière, c'est donc un cocktail explosif. Le ministre en chef de New Delhi n'a pas hésité à comparer la capitale à une chambre à gaz. Ces derniers jours, 15 000 personnes ont été hospitalisées. Fred nous demandait quels étaient les risques sanitaires pour la population.
Alors, les risques sont évidemment très élevés. Les risques sont surtout des maladies respiratoires, évidemment. C'est le taux de particules fines PM2,5, donc ces particules fines qui pénètrent dans les poumons, auxquels sont exposés tous les habitants de Delhi qui sortent dehors. Ce taux de PM2,5 est estimé à jusqu'à 30 fois supérieur au niveau jugé dangereux par l'OMS. Donc les risques sont évidemment pour les personnes qui souffrent déjà de maladies respiratoires, mais également voilà des bronchites, les personnes qui souffrent d'asthme. De nombreux patients sont venus avec des problèmes de toux, d'irritation aux yeux, aux narines. Selon une étude récente également, 4 enfants sur 10, donc les enfants sont particulièrement exposés à cette pollution, 4 enfants sur 10 donc auraient des problèmes graves aux poumons ces dernières années à cause de la pollution. Et une autre étude affirme que les habitants de Delhi pourraient vivre 6 ans en moyenne de plus si le niveau de limite de pollution nationale n'était pas dépassé comme c'est le cas à présent.
Ouais, et on a pu lire plusieurs fois ces derniers jours dans la presse indienne que respirer l'air de New Delhi actuellement équivaut à fumer 40 cigarettes par jour. On me dit que Fred a encore une dernière question à vous poser, Antoine Guinard. Fred ?
Les autorités ont-elles annoncé des mesures pour que cela ne se reproduise pas ?
Alors, évidemment, il y a eu des mesures prises face à l'urgence. Sans rentrer trop dans le détail, Antoine Guinard, est-ce que vous pouvez nous les énumérer ?
Oui, alors les mesures sont pour l'instant jugées assez faibles. Donc, il y a eu par exemple la circulation alternée qui avait déjà été mise en place cette dernière année à Delhi, mais elle a finalement été retirée. Donc, il y a aussi l'interruption justement des chantiers dont je vous parlais, des chantiers publics évidemment, et la fermeture de centrales a également été annoncée, mais ces mesures sont largement réactives et elles sont jugées beaucoup trop faibles par la population qui dénonce une inaction du gouvernement. Donc pour l'instant, on peut dire que les mesures sont pour le moins, elles ne sont pas à la mesure de la catastrophe, parce que c'est vraiment une catastrophe en ce moment à Delhi. Et pour l'instant, là, les brûlis agricoles continuent. Et des mesures à long terme, sur tout le long de l'année, doivent impérativement être mises en place.
Bien sûr. Merci beaucoup, Antoine Guinard, d'avoir été avec nous en direct de New Delhi. Bonne journée, Fred, à Brazzaville, 9h16 à Paris. Vos questions, 33 9 693 693 70. Ali Tigua, bonjour.
Bonjour, Ran. Bonjour à tous.
Vous êtes à Ségou, au Mali, et vous avez justement des questions concernant l'armée française dans votre pays.
Oui, Ran. Bien. Barkhane est soupçonné d'avoir bombardé par erreur des soldats maliens pris en otage par un groupe armé terroriste lors d'un raid dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier à Kidal. Mmh. Selon les autorités maliennes et le groupe terroriste, Barkhane est responsable de ce massacre. Mais la France ne reconnaît pas avoir tué les soldats maliens. Alors, Rouen, comment expliquer que leur version du fait ne soit pas la même?
Ah, effectivement, deux versions, celle de Bamako et celle de Paris, après cette opération menée dans la nuit du 23 au 24 octobre, près de la frontière algérienne, contre un camp djihadiste, à l'intérieur visiblement effectivement des soldats maliens, retenus en otage. Bonjour Olivier Four.
Bonjour.
Spécialiste des questions militaires à RFI, en sait-on déjà un peu plus deux semaines après cette opération? Et surtout, comment expliquer ces différents communiqués avec des versions différentes?
Alors, on en a beaucoup parlé de cette affaire qui a un peu mis de la friture sur la ligne entre Paris et Bamako ces dernières semaines. Je vous dirais que, comme souvent dans des cas pareils, la vérité se trouve certainement à mi-chemin entre la version des Français et la version des Maliens. Sans passer par les multiples étapes et la guerre de communiqués qu'on évoquait, qui a débuté en fait le 26 octobre dernier, puisque ce jour-là, les Français disent qu'ils ont attaqué un camp, en fait c'est pas exactement à Kidal, c'est près d'Abeibara, donc dans l'extrême nord du Mali, et qu'ils ont tué une quinzaine de membres de groupes armés terroristes, donc ça part d'un communiqué français de l'état-major des armées ici. Le pouvoir malien, quelques jours plus tard, dit « Vous avez tué des otages ?» Barkhane répond « Non, nous avons tué des terroristes. » Effectivement, on sait que le JNIM, cette coalition de mouvements djihadistes qui se fait appeler groupe de défense de l'islam et les musulmans, a fait des prisonniers ces derniers temps, des prisonniers des FAMA, des forces armées maliennes. Certains ont été enlevés l'an dernier, d'autres ont été enlevés cette année. Les autorités maliennes s'en sont guère inquiétées jusqu'alors et n'ont pas réussi non plus à les récupérer. Et le 23 octobre, certains se seraient donc retrouvés dans ce campement près d'Abeibara. C'est probable, les autorités militaires maliennes en auraient formellement identifié 6, plus le chef de la Katiba, un certain Ismaël Agasbey. Lui, c'est un déserteur de l'armée malienne. Il a quitté les rangs en 2006. Il est en fuite depuis 2006. Et selon Barkhane, il s'était spécialisé dans le recrutement et la formation de djihadistes. Donc ça pourrait quand même accréditer la thèse d'éléments retournés, donc d'éléments des forces armées maliennes qui seraient passés de l'autre côté, côté groupe armé terroriste. Alors ce qu'il faut noter, c'est que l'identité du chef dont je vous parlais, les Français ne l'avaient pas quand ils ont attaqué ce camp. En revanche, comme à chaque fois, ils ont observé la cible pendant des dizaines d'heures avec différents capteurs. Ils ont préparé cette opération de manière très minutieuse. Et la seule chose qu'ils ont vue, en fait, C'est un groupe plutôt homogène qui s'entraînait et qui vivait ensemble. Évidemment, ça se passe dans une zone dangereuse, dans l'extrême nord du Mali. Donc, on imagine bien que les commandos français ne sont pas allés demander la carte d'identité de chacun des terroristes présumés avant de déclencher le raid. Donc, les militaires restent droits dans leurs bottes. Ils disent nos conclusions, eh ben, c'était des terroristes. Puis ils se comportaient exactement comme des terroristes. Le pouvoir malien proteste. Et finalement, c'est ce qui se dit depuis quelques jours, hein, il faut lire un peu la presse, celui qui en bénéficie, c'est sûrement l'auteur probable de la manipulation, comme disent les Français, le chef de guerre Iyad Agali, qui dès qu'il peut essaye de diviser ses adversaires. Alors s'il peut trouver un levier pour mettre en porte-à-faux Barkhane vis-à-vis du pouvoir malien, il le fait.
En tout cas, ce serait la première fois qu'il s'émeut du sort de soldats maliens.
Oui, c'est ce que fait remarquer Barkhane, d'habitude, ce monsieur est plutôt en train de combattre ces gens-là plutôt que de s'émouvoir de leur sort, effectivement.
Oui. Ali Tigua, vous avez une autre question.
Oui, Yuran. Quelles pourraient être les conséquences sur les relations franco-maliennes?
Alors, vous parliez à l'instant, Olivier Four, de friture sur la ligne entre Paris et Bamako. Quelles sont les conséquences?
Oui, ça a turbulé hein, quand même ces derniers jours. J'étais la semaine dernière à Bamako avec le commandant Fort Barkhane. Il y a eu quand même des entretiens.
Donc, aux côtés des troupes françaises, Barkhane, oui.
Il y a eu, à leur invitation, hein, il y a eu un certain nombre d'entretiens. Il y a eu des mises au point qui ont été faites notamment avec le chef d'état-major des armées du Mali. Conséquence, on l'a vu au forum de Dakar, le président malien Ibeka, comme la ministre française des armées Florence Parly, estime que toute cette affaire est désormais derrière eux. Ensuite, c'est sûr que la semaine dernière, on l'a dit, la situation s'est clairement tendue. Et cela arrivait en plus juste au moment où était lancée la fameuse force conjointe du G5 Sahel. Donc ça tombait mal, cette affaire. Et ce qui est sûr aussi, c'est que le Mali de 2017, c'est pas celui de 2013, quand la population malienne en liesse remerciait Papa Hollande, souvenez-vous, dans les rues de Tombouctou, puisque la France était intervenue pour l'opération Serval, ça appartient désormais à l'histoire. Je précise que dans l'ensemble, il y a encore une adhésion de la population malienne à la force Barkhane. Les militaires nous ont montré des vidéos. Il n'y a pas réellement de manifestation spontanée contre Barkhane qui réunirait des milliers et des milliers de personnes. Quand il y en a, ça se passe plutôt dans l'extrême nord à Kidal. En revanche, il ne faut pas oublier non plus un facteur, c'est qu'il peut y avoir une certaine usure du pouvoir malien arrivé aux responsabilités dans la foulée de Barkhane, de Serval, avant Serval, le Mali avait toujours fait preuve d'une forte indépendance vis-à-vis de l'ancien colonisateur, voire même d'une certaine défiance. Rappelez-vous, avant Serval, il n'y avait pas une seule base française au Mali. Mon camarade Hofnung, Thomas Hofnung, le rappelait récemment dans un papier.
Journaliste au Monde Afrique.
Exactement. Les deux pays avaient tout juste un accord de coopération technique qui datait de 85. Donc tout cela a bien changé. Donc bien sûr, il y a la lutte contre le terrorisme. Et là, le pouvoir malien sait qu'il ne peut pas se passer d'une aide militaire extérieure. Mais certains peuvent aussi être tentés de jouer la carte du sursaut national d'un point de vue politique en dénigrant l'action d'une force dirigée précisément par l'ancienne puissance coloniale.
On a répondu à vos questions, Ali Tigua.
Oui, Yuran, vous avez bien répondu à ma question.
C'est surtout Olivier Four qui a répondu. Il est le spécialiste des questions militaires à RFI. Bonne journée à tous les deux. 8h22 à Ségou, au Mali, justement. 33 9 693 693 70. Bonjour, Maki.
Oui, Yuran, bonjour et bonjour à tous.
Vous êtes à Conakry, en Guinée. Nous vous écoutons.
Merci. Récemment, la secrétaire d'État au développement international britannique, Madame Priti Patel, a dû démissionner pour avoir rencontré en secret des dirigeants israéliens. Alors, Juan, moi, je voudrais savoir pourquoi a-t-elle organisé ces rencontres en cachette et sur quoi portait-elle exactement? Aussi, en quoi ces rencontres fragilisent-elles la première ministre?
Oui, c'est vrai que c'est un coup dur pour la première ministre Theresa May. On va tout vous expliquer avec Olivier de France. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, vous êtes spécialiste des questions européennes. La secrétaire d'État britannique au développement international, qui est donc accusée de diplomatie parallèle, elle a eu pas moins de 12 rencontres avec des officiels israéliens. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas rendu compte à sa hiérarchie, autrement dit au ministère des Affaires étrangères, ni à la première ministre. Déjà, dans quel contexte se sont déroulées ces réunions?
Disons qu'il y a une question de fond et de forme là. Effectivement, ces réunions se sont déroulées dans le cadre d'un séjour privé en Israël, et elle n'en a pas informé son administration, elle n'en a pas informé donc son ministre de tutelle, et elle n'a pas informé son gouvernement et la chef du gouvernement, Theresa May, ce qui tombe particulièrement mal, effectivement, pour Theresa May, dans la mesure où elle avait déjà été confrontée à un coup dur la semaine dernière du fait de la démission du ministre de la Défense, et donc elle avait dû procéder à un mini remaniement, et donc elle a dû reprocéder encore cette semaine à un remplacement de sa ministre du Développement International.
Le ministre de la Défense, qui, rappelons-le, est mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel. Mais quel est l'intérêt pour un membre du gouvernement britannique de rencontrer en secret des dirigeants israéliens, et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou?
C'est vrai que c'est un petit peu difficile à comprendre, dans la mesure où c'est une région qui est quand même particulièrement sensible du point de vue diplomatique. C'est pas la région la plus simple. Donc, en général, dans ces cas-là, même quand on y va à titre privé, quand on est secrétaire d'État, on représente pas uniquement soi-même, on représente son administration, son gouvernement et par extension les intérêts britanniques dans la région. Donc, c'est pas forcément la meilleure manière de protéger ou de promouvoir les intérêts britanniques dans une région particulièrement sensible, qui plus est dans la mesure où, en réalité, cette affaire-là, si elle était revenue à Londres, qu'elle s'était excusée, qu'elle avait dévoilé à peu près tout ce qui s'était passé, on serait passé à autre chose. Simplement, d'une part, en fait, elle a plus ou moins accusé son ministère d'avoir, en gros, démenti ses propos. Et ensuite, lorsqu'elle a eu son entretien avec Theresa May, elle n'a pas dévoilé l'étendue des entretiens qu'elle avait eus. Et l'ennui, c'est qu'une fois qu'elle est revenue de ce voyage privé, en fait, cela a pu avoir un impact sur la politique britannique dans la région, puisqu'en réalité, elle a tenté de réorienter de l'aide au développement britannique vers en fait une opération humanitaire de l'armée d'Israël dans le plateau de Golan, mais en réalité suite à des entretiens qui se sont faits dans un cadre privé.
Ouais. Donc, enfin, le conflit d'intérêts, d'accord, mais vous parliez du Golan, il se trouve que le Royaume-Uni en plus estime que ce territoire est illégalement occupé par Israël, donc elle est en contradiction finalement avec la position officielle de sa première ministre.
Voilà, c'est pour ça que dans n'importe quelle région du monde, quand vous êtes secrétaire d'État, vous représentez en réalité votre c'est pas des entretiens privés entre individus, vous représentez votre pays, et a fortiori dans ces cas-là, quand vous rendez visite à un hôpital militaire dans le plateau du Golan, alors que votre pays ne reconnaît pas la présence permanente d'Israël dans cette région, ça pose forcément un problème.
Merci beaucoup. On a répondu à vos questions, Maki.
Oui, c'est parfait, Juan. Merci.
Voilà, merci à vous et merci surtout à Olivier de France, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions européennes. On avait prévu d'autres questions, mais ne vous inquiétez pas. Là, je m'adresse par exemple à Laurent, qui était déjà au standard et qui allait nous poser des questions sur les relations tendues à nouveau entre La Havane et Washington. Ne vous inquiétez pas, Laurent, nous vous rappellerons très vite. Pourquoi je vous interromps et je donne pas la parole à Laurent? Il me reste 2 minutes 30 et je voulais, d'ici là, que vous tendiez l'oreille, puisque nous avons une personnalité qui souhaite vous saluer.
Bonjour, c'est Youssou N'Dour. Ce jeudi 16 novembre, je suis le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité avec Juan Gomez.
Et oui, et le 16 novembre, c'est demain. Demain, Youssou N'Dour, rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité, c'est donc lui qui a choisi les sujets sur lesquels vous allez réagir. Alors Youssou N'Dour vous propose de commenter notamment les relations France-Afrique avec en toile de fond ce débat qui n'en finit pas autour du franc CFA. De plus en plus de voix demandent une réforme, voire même la suppression de cette monnaie. Ce sujet vous interpelle, eh bien rejoignez-nous, venez dialoguer demain matin avec Youssou N'Dour. Autre sujet, la sécurité en Afrique, on en a beaucoup parlé ces 2 derniers jours, puisqu'à Dakar s'est tenu un grand forum. Pas de développement sans sécurité et inversement. Comment le continent peut-il relever le défi, notamment grâce à sa jeunesse? Youssou N'Dour en est convaincu. La lutte contre le terrorisme passe notamment par la jeunesse du continent. Et puis enfin, dernier sujet que nous débattrons demain, la couverture médicale universelle. À quand une CMU pour tous les Africains? Comment permettre un meilleur accès aux soins pour tous? Qu'en est-il d'ailleurs dans votre pays? Témoignez demain matin. Si vous souhaitez dialoguer donc et débattre avec Youssou N'Dour, un conseil, inscrivez-vous dès maintenant. Vous êtes déjà plusieurs dizaines à nous avoir contactés ces derniers jours. Il y a donc du monde. 33 9 693 693 70. Vous pouvez également nous envoyer vos réactions, vos commentaires que nous donnerons directement à Youssou N'Dour via la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. On revient dans 10 minutes.
minutes, on va parler de l'impact de la baisse des cours du pétrole sur le continent africain. On va donc marquer une pause, retrouver la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin avec évidemment un point complet sur la situation au Zimbabwe où l'armée a pris position dans les rues de la capitale. À dans 10 minutes.